France Inter.
L'invité au carré aujourd'hui,
Yamina Saeb, directrice du Laboratoire mondial des sobriétés.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
À la fin des années 2010, le débat climatique mondial repose encore sur une promesse confortable, celle d'une technologie qui serait capable de corriger nos excès sans bouleverser nos habitudes. Les rapports parlent d'efficacité, d'innovation et d'optimisation. Lorsque s'ouvrent les travaux préparatoires du 6e rapport du GIEC, une ligne de fracture apparaît. Certains scientifiques défendent l'idée qu'on ne peut plus se contenter de consommer mieux, il faut consommer moins. Non par punition, mais parce que les chiffres le montrent, aucune trajectoire crédible ne tient sans réduction de la demande matérielle. Le mot qui émerge pour nommer cette réalité est simple et explosif, sobriété. Son entrée dans le rapport de 2022 déclenche une bataille lors de la relecture par les gouvernements. Il devient même ce mot l'un des plus contestés du texte. À un moment, il disparaît même du résumé destiné aux décideurs. Finalement, le mot sobriété réapparaît à la dernière étape des négociations. Une victoire donc discrète, mais décisive. Pour la première fois dans son histoire, le GIEC reconnaît officiellement que la réponse climatique ne sera pas seulement technologique, elle implique une réorganisation volontaire de nos priorités collectives dans le domaine de l'énergie, du logement, de la mobilité ou du travail. Et cette victoire sémantique, on la doit à une chercheuse tenace qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Yamina Saeb.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous, la scientifique tenace, cette bataille pour imposer le mot sobriété dans le rapport du GIEC de 2022. Ben, cette bataille, c'est vous qui l'avez menée. La sobriété, est-ce que c'est encore un gros mot aujourd'hui ou un épouvantail ?
Ça dépend où. En France, non, parce que la France est une exception dans le monde occidental. On a eu nos premiers scénarios qui intègrent la sobriété, scénarios énergétiques qui intègrent la sobriété, remontent à 78. Et tenez-vous bien, ça a été fait par des collègues qui étaient à l'époque qui était le ministère du budget, donc Bercy d'aujourd'hui, quoi.
Ouais.
Donc inimaginable
aujourd'hui.
Incroyable. Et donc on est aussi, et ça a été beaucoup très utile, le seul pays de l'OCDE où le mot sobriété apparaît dans la loi sur la transition énergétique de 2015, donc tout ça, ça a aidé. Et pendant que nous, on travaillait sur le rapport du GIEC, il y avait beaucoup de travaux qui étaient lancés sur la sobriété. L'ADEME, par exemple, avait publié plusieurs rapports sur la sobriété. Et là, aujourd'hui, on a regardé la SNBC, la Stratégie Nationale Bas Carbone Française, qui a été publiée juste avant Noël. Le mot sobriété apparaît 72 fois après, dans le texte, dans le rapport. Après, c'est une exception dans le monde. Hein. Il n'y a pas d'équivalent de cette SNBC où le mot apparaît. Après, cela ne veut pas dire que ça apparaît sur la base des fondements théoriques qu'il y a derrière. Je considère qu'il y a quand même une confiscation du politique de la sobriété au sens large. Ouais,
donc il y a une distance entre le fait de citer le mot et de prendre et faire des actes, en tout cas, en écho à ce mot. Hein.
Et on ne peut qu'avoir cette distance-là. Pourquoi ? Parce que la sobriété, c'est une remise en question du système politico-économique tel qu'il est organisé, ce que la SNBC ne fait pas.
On va en reparler, évidemment, tout à l'heure, parce que c'était une grande bataille quand même, une grande victoire aussi pour vous au cours de votre carrière. Yamina Saeb, dans quel environnement familial est-ce que vous avez vécu, vous qui avez grandi à Alger dans les années 70 ? On va commencer un petit peu à brosser votre portrait, puisque c'est le principe de cette émission du vendredi. Ça ressemble à quoi, votre enfance ?
Oh, une enfance heureuse dans une Algérie qui était plutôt progressiste, parce que moi je suis née après l'indépendance, et donc pour ma génération, on a eu accès à l'école, on a eu accès à l'éducation, à la santé, on a été vaccinés. Moi, vous vous rendez compte, moi je suis la première dans ma famille à avoir été vaccinée. Je fais partie de la première génération vaccinée, alors que l'équivalent de ma famille en France métropolitaine, c'est troisième ou quatrième génération. Et je suis aussi la première de ma génération où l'instruction était obligatoire et disponible, et on avait une instruction de bonne qualité. Et donc, c'était plutôt une Algérie qui regardait vers l'avant, vers l'avenir, progressiste. Et dans ma famille, une chose peut-être qui était un peu particulière, je m'en suis rendu compte plus tard.
Famille kabyle.
Famille d'origine kabyle. Mais ouais. En fait, on a grandi à Alger, on est né à Alger. On a grandi à Alger d'un papa qui est né en Kabylie, mais qui a grandi à Lyon et qui a fini, et ses trois dernières années en France, il les a finies en prison parce que pendant la guerre d'Algérie, parce que il aurait distribué des tracts pour demander l'égalité des droits dans l'accès à l'enseignement supérieur. Donc c'est quand même assez.
C'était une prise de risque.
Oui. Et à l'époque, il faut se remettre dans les années 50. Et donc il a été libéré à Alger. C'est comme ça qu'il est resté à Alger. Et d'une maman qui a grandi en Algérie, mais pas du tout en Kabylie, Kabyle aussi, mais qui a grandi dans une petite ville à l'intérieur du pays, une petite ville plutôt arabophone. Ouais. Seulement, l'identité kabyle était très forte dans ma famille. Et donc, mes parents ont insisté, surtout ma mère, pour qu'on parle kabyle. Et du coup, nous, on a appris le kabyle et le français en même temps. Ce sont deux langues, on ne distingue pas, en fait. Quand on grandit dans un milieu où il y a plusieurs langues, on ne fait pas cette distinction, parce qu'on est dans l'immersion tout le temps. Donc, cette identité kabyle a quand même... aujourd'hui, je me rends compte qu'elle a beaucoup forgé la personne que je suis, parce que dans les années 70, ce qu'il faut savoir, c'est que l'identité berbère ou kabyle n'était pas reconnue dans la constitution algérienne. Ce n'est qu'en 2005, je crois, qu'il y a eu cette reconnaissance-là. Et donc, apprendre à ses enfants à parler kabyle à Alger, c'était un acte de résistance.
Donc, oui, c'est moi... ça. Ça caractérise aussi finalement votre cadre familial. Ouais. C'est cette résistance culturelle, quoi.
Elle était là, elle était obligée, elle était imposée par le régime qui était en place. Dans mon cas, mon prénom aussi, Yamina, qui est en fait une berbérisation d'un prénom arabe, Amina. Amina, dans la culture arabo-musulmane, fait référence à la mère du prophète. Oui. Mais moi, mon prénom, c'est le prénom d'une tante paternelle qui est morte pendant la guerre d'Algérie, qui aurait été tuée par l'armée française. Et la légende dans le village raconte qu'elle aurait été accrochée à un arbre pour qu'elle la donnait en exemple. Et donc, moi, j'ai grandi dans un environnement où je savais qu'il fallait résister et qu'en résistant, on gagne. On finit toujours, les causes justes finissent toujours par gagner.
Donc votre prénom, il porte ça aussi ?
Il porte ça aussi. Je me souviens quand j'étais en CE1, la maîtresse avait orthographié mon prénom comme étant Amina, donc je l'ai corrigé et j'ai été punie. Et puis après, mon père est allé la voir pour lui expliquer, parce qu'elle m'avait dit que c'était le prénom de la mère du prophète. Je lui ai dit oui, mais moi, c'est le prénom de ma tante et la mère du prophète, je ne la connais pas. Donc en fait, ma référence, c'était ma tante qui avait résisté. Une résistance pour une cause juste qui a gagné, qui a fini par gagner.
Avant qu'on commence cette émission, vous m'avez appris à bien prononcer votre nom. Parce que moi, je prononce Yamina Saheb.
Oui.
Mais en réalité, ce n'est pas comme ça qu'il faudra le prononcer.
Non, c'est Saheb.
Yamina Saheb.
Ouais. Et d'ailleurs, même mon nom de famille, en fait, ce n'est pas mon vrai nom, c'est le nom que l'administration coloniale a donné à ma famille. Et j'ai compris plus tard, en lisant le livre d'Alain Maillet sur l'anthropologie de la Grande Kabylie, que les familles kabyles... Parce qu'en fait, Alger est tombé en 5 jours, en 1830, mais la Kabylie, il a fallu 40 ans. Et donc, les familles qui ont résisté, qui étaient dans la plaine, l'administration coloniale, après, leur a donné des noms qui sont sortis. Et c'est un nom aussi qui a un sens en arabe, qui n'a pas du tout de sens en kabyle. Mon vrai nom en kabyle, ça serait Aït Lamara.
Qui veut dire
On est les descendants de l'Amara, quoi. Enfin, on vient de...
La Kabylie, c'est la montagne,
oui.
Yamina Saheb. Alors, qu'est-ce qu'il y a de montagnard en vous, finalement ?
Ah, rien du tout.
Puisque vous êtes d'Alger ?
Oh, rien du tout. Il n'y a rien de montagnard. Ouais. D'autant plus qu'avec mes parents, ils ont insisté sur la culture kabyle, la langue, etc. Mais on est parti une seule fois avec mes parents en Kabylie. Sauf que ce qu'il y a de montagnard en moi, c'est que j'aime bien aller faire des balades à la montagne, mais pas nécessairement... J'en ai pas vraiment fait en Kabylie, quoi. Ouais.
Vous auriez pu aimer ça sans être kabyle, forcément.
Voilà, j'aurais pu aimer ça sans être kabyle.
Vous le disiez, l'éducation a une grande importance dans cette enfance en Algérie, et vous choisissez, évidemment un peu plus grande, de faire l'école militaire d'ingénieur à Alger. Pourquoi ce choix ?
Alors, au moment où je passais le bac, j'avais postulé pour l'école du Louvre à partir d'Alger. Mais j'ai passé le bac pendant la période du terrorisme, donc l'Europe était fermée pour les Algériens. J'ai réussi le concours pour aller là-bas, mais ma mère a refusé de me payer les études parce qu'elle disait que...
Pour aller au Louvre ?
Oui, ouais. Elle disait que c'était une école pour la bourgeoisie parisienne et que peut-être que je faisais partie de la bourgeoisie, mais à ce moment-là, ça serait algéroise. J'avais aucune chance, en fait, de réussir. Et donc, j'avais pensé à l'école d'architecture. Je me souviens plus très bien pourquoi j'ai pas fait école d'architecture. Puis, si je me souviens bien, j'avais un cousin qui m'avait dit, tu vas t'ennuyer à l'école d'architecture, parce que j'étais très bonne en maths. Il m'a dit, ça te convient pas là. Il m'avait dit, vaut mieux que tu fasses une école d'ingénieur. Et donc, la plus proche de ce que je voulais faire, c'était l'école... Parce que ça, c'était une formation d'ingénieur en bâtiment, en fait.
Oui.
Et je voulais faire quelque chose lié au bâtiment.
Donc, milieu quand même très masculin. Hein. École
super masculin. On était 5 filles sur une promo de 110.
Vous avez vécu beaucoup de discrimination au sein de cette école ou pas?
Une dont je me souviens, c'était un prof que qui enseignait le dessin architectural, qui considérait que les filles ne pouvaient pas comprendre le dessin architectural. Vous comprenez, c'est compliqué pour nos petits cerveaux de femmes. Et donc, qui notait mal les filles. Moi, j'avais eu une bonne note un peu par hasard, parce que j'avais eu la note qu'il considérait que je méritais, parce qu'il y avait une erreur sur mon prénom. Il n'y avait pas Yamina, c'était écrit Yamine. Donc j'étais un garçon pour lui. Et puis quand il a su ça, le deuxième semestre, il m'a saqué. J'ai demandé une commission d'enquête, une commission de correction. La commission de correction a eu lieu, mais il y avait une prof, une femme, qui m'avait dit, de toute façon, on va confirmer sa note parce que bah, c'est comme ça. Mm-hmm. Sauf que lui, il avait demandé à ce que je sois exclue de l'école. Mais là, comme j'étais
ah oui,
très bonne...
Ah oui, vous en voulez. Hein.
Ah oui, il m'en voulait parce que là, j'ai contesté. Personne ne conteste. Enfin, c'est une école militaire, on ne conteste pas. Et donc, moi, j'étais civile quand même, hein. Je n'étais pas militaire. Et donc, du coup, mais seulement les autres profs, j'avais eu de très bons résultats la première année. Et donc, ils ont dit, on ne peut pas exclure la meilleure élève qu'on avait. J'avais une très bonne moyenne. Et après, ils m'en voulaient, même à la fin, ils voulaient encore me saquer, quoi. Il a voulu faire partie de mon jury de soutenance, parce que dans les écoles d'ingénieurs, on présente un mémoire, on fait une soutenance. Et là, j'ai eu un peu de culot, parce qu'à ce moment-là, il y avait un général algérien qui portait le même nom que moi, mais qui n'a aucun lien de famille. Et donc, j'étais allée voir le directeur des études et je lui ai dit, de toutes les façons, s'il est dans mon jury, je préviens mon oncle. Et il n'a pas été dans le jury. Ça a marché.
Il n'a pas pu
et
vous
savonner
la planche.
Après, j'ai fini major de promotion, ouais. Ce qui ne lui a pas beaucoup plu. Ouais. Mais oui, il y avait des discriminations. En fait, c'est une école d'ingénieurs, enfin, même ici, en fait, les écoles d'ingénieurs, il n'y a pas beaucoup de filles. Mais alors, ingénieur militaire, c'est encore moins. Et dans un contexte... au début, je vous disais, mon enfance, c'était une Algérie progressiste. Là, oui. C'était une Algérie qui retournait, qui était en retrait, quoi.
Là, c'est un contexte politique très violent à l'époque.
Très, très violent.
On est quelle année, là, à peu près, quand vous êtes major de promotion ?
On est entre 90 et 95.
Oui, c'est ça.
D'ailleurs, moi, j'ai vécu dans mon école, une voiture piégée est venue à exploser à l'intérieur de mon école. Donc, j'ai vécu la période du terrorisme. Enfin, j'ai été étudiante pendant la période du terrorisme en Algérie.
Et comment on le vit et quels souvenirs on en garde, alors ?
Alors, quand on est là-bas, quand on le vit... on est dans la résistance, donc on se dit ils vont pas gagner, on va pas les laisser gagner. Par exemple, en 95, il y a eu une élection présidentielle, parce qu'on est parti et pendant longtemps on n'avait pas de gouvernement. Quand il y a eu l'élection présidentielle, c'est la seule élection où je suis allée voter. Ça faisait partie de la résistance. Bon, comme j'habitais un quartier plutôt bien, donc en fait j'ai même surveillé un bureau de vote à Alger, mais c'était là que votait le premier ministre, donc il y avait pas trop de risques pour moi. Après, c'est quand je suis partie, c'est quand je suis arrivée en France qu'on se rend compte du poids de ce qu'on a vécu et du décalage entre notre époque au niveau international, là, dans les pays où il y a de la paix, et ce que nous, on a vécu. Et j'ai mis beaucoup de temps pour réapprendre, j'ai dû réapprendre à vivre. Et il y avait un médecin qui m'avait aidée et qui avait eu la présence d'esprit de m'expliquer qu'en fait, j'ai vécu un grand traumatisme et que ce traumatisme-là, il partira jamais. Seulement, le cerveau a la capacité de le mettre dans une boîte. C'est ce que mon cerveau a priori fait. Seulement, si jamais je subissais un choc, ça pourrait ressortir. Et c'est ressorti, les cauchemars que je faisais sont ressortis quand il y a eu le Bataclan.
Ça a été vraiment un événement pour vous qui a fait ressurgir.
J'avais à nouveau peur de sortir, ce que je ne connaissais plus depuis 2002. Parce que j'avais, grâce à ce médecin-là, j'avais réussi à vivre avec, à le mettre dans une boîte.
Yamina Saeb, vous êtes notre invitée au carré cet après-midi avec un sweatshirt que vous portez et sur lequel est écrit Politics. Politics is cool.
Ouais.
Vous auriez pu dire résistance is cool aussi. Hein.
Ouais, mais c'est pas. Alors ce t-shirt-là, je l'ai eu à l'Académie des futurs leaders qu'a lancé Alice Barbe. J'ai eu l'opportunité de suivre la formation là-bas en 2023. Et on avait eu ce t-shirt-là, ce pull-là. Et en fait, je le porte parce que en français, on n'a pas le mot politics. On a que le mot politique. Mmh. Et en anglais, on a deux mots. Il y a le mot politics et le mot policy. Et en fait, je pense que parce qu'il n'y a pas le mot dans la langue française, qu'il y a souvent de la confusion. Et en vérité, tout ce qui se passe sur la question écologique, etc., c'est d'abord politics et ensuite ça devient policy. Policy, ce sont les instruments. Par exemple, politics, on va discuter de est-ce qu'on va laisser l'espace, la chaussée plus pour la voiture ou alors est-ce qu'on va mettre un petit peu de justice et laisser de la place...
C'est le débat dans la cité, finalement.
C'est le débat dans la cité. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, si je l'ai mis, en fait, bien sûr que ce n'est pas neutre. Hein.
Bah, bien
Moi, je fais partie des scientifiques qui ne défendent pas l'idée de la neutralité de la science.
Je vois bien le message que vous envoyez face aux caméras du studio de la Terre au Carré.
Donc, je l'ai mis exprès et je remercie l'Académie des futurs leaders de me l'avoir offert.
Yamina Saeb, on se retrouve dans un instant. On va parler sobriété avec vous. Vous êtes notre invité au Carré.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
La société de consommation, moi je l'appellerais plutôt la société de destruction. On tue les arbres, on tue les oiseaux, on tue les hommes aussi dans tous les coins du monde. On tue toutes les raisons de vivre.
Il y a des ressources qui sont épuisables et qui ne peuvent pas être renouvelées. C'est cet équilibre entre population, production, ressources, espace disponible qu'il faut trouver et trouver assez rapidement. Sinon, si nous ne faisons pas ça, nos fils, les prochaines générations, devront payer notre imprévoyance et notre égoïsme.
Voilà, c'était René Barjavel qu'on entendait au début de cet archive de l'INA en 1969, avec ensuite l'Italien Aurelio Peccei, industriel, et qui a été le fondateur du Club de Rome en 1973. Yamina Saeb, vous aviez 2 ans.
2 ans.
2 ans à ce moment-là. Les mots qu'on entend là, ils ont encore un écho terrible aujourd'hui, finalement.
Oui, ils ont un écho terrible, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça, parce que la consommation, c'est le résultat de l'organisation politico-économique du monde et de nos sociétés. Donc c'est une conséquence en vérité. Et lorsqu'on focalise uniquement sur la consommation, c'est l'un des reproches que je fais aux collègues qui travaillent en sociologie, principalement uniquement sur la consommation, c'est qu'en travaillant sur la on se retrouve à travailler sur un symptôme et pas du tout sur les causes. Et les causes, c'est comment le monde est organisé depuis, on va dire, la crise de 29. Et en vérité, on est là parce que, de mon point de vue, la crise de 29 n'a jamais été résolue. C'est pour ça que nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui.
Et puis la consommation, ça stigmatise aussi beaucoup le consommateur, précisément. Alors que quand on va aux racines du problème, bah là, on est dans une dimension qui est tout autre.
Il y a un très très bon livre de Niklas Olsson sur le consommateur souverain. Comment est-ce que le consommateur, l'idée du consommateur souverain a été créée? Justement, c'est au moment de la crise de 29. Donc il retourne, il donne une histoire différente du capitalisme mais de la consommation. Et en fait, en 29, quand il y a eu la crise, au lieu de s'attaquer à la racine du problème de la crise, ils ont inventé le crédit à la consommation, ils ont encouragé la consommation. Il y a d'abord, ça a bien fonctionné aux États-Unis temporairement, mais après, à cette époque-là, le marché américain n'était pas très important. Donc, comme ils continuent à produire et à se faire pour se faire plus d'argent, donc ils ont fait l'extension vers l'Europe grâce au plan Marshall. Et puis après, on a fait cette extension-là au reste du monde grâce à l'aide au développement. L'aide au développement, elle a principalement servi à ça. Et aujourd'hui, nous en sommes là où...
Donc, ça sert à entretenir cette machine, finalement.
Ça a servi uniquement à entretenir la machine. C'est pour ça que moi, je fais partie des gens qui considèrent que la crise de 29 n'a jamais... Les problèmes qu'elle a posés n'ont jamais été addressed, n'ont jamais été résolus, en fait. Et on n'a fait que l'extension, et on se retrouve... Après, bien sûr, il y a eu l'OMC, la Chine, le réveil de la Chine, etc. Et on se retrouve dans ce monde, ce qu'on a mondialisé, c'est la consommation, c'est le modèle occidental américain plutôt de la consommation. C'est ça qu'on a mondialisé. Et ça ne va pas du tout avec les limites planétaires.
C'est ça, et c'est d'autant plus difficile de nous entendre parler aujourd'hui de sobriété, par exemple, lorsque pendant des décennies, on a été gavé, biberonné précisément à cette société de la consommation, avec les Trente Glorieuses, évidemment, qui nous ont complètement occulté le problème. Ouais.
Voilà. C'est très difficile, mais il y a des endroits, par exemple aux États-Unis, où on peut pas... C'est très paradoxal, en fait. La doctrine du sobriétisme, c'est un Américain qui a écrit ça, c'est Harry Frankfurt en 1987. Même si, dans ce qu'il a écrit, ça reste quand même très libéral, très consommateur.
C'est les années Reagan, là.
Oui, c'est les années Reagan. Et l'autre, le livre référence aujourd'hui sur la sobriété, c'est Thomas Prinson, qui l'a publié en 2005, c'est The Logic of Sufficiency. Et donc, deux références américaines. Mais après, Thomas, par exemple, il me dit, Harry Frankfurt, je ne l'ai jamais rencontré parce qu'il est mort, mais Thomas, il me dit, mais bien sûr que ça peut même pas rentrer dans l'une des oreilles de nos politiques. Voilà, dans le logiciel. C'est une remise en question de ce logiciel-là. Et moi, ce que je pense, c'est que la crise écologique, et puis aujourd'hui à laquelle se rajoute une crise sociale, et puis on a une crise géopolitique, et moi je pense que le trumpisme, j'essaye d'être positive, et je me dis que le trumpisme, avec tout ce qu'il est en train de faire, eh ben, ça nous impose, à nous, Européens, de nous repositionner dans le monde, dans ce monde-là, dans le XXIe siècle, d'autant plus que d'un autre côté, il y a la montée de la Chine, et on ne peut pas se repositionner si on ne remet pas en question ce modèle-là, qui est un modèle qui fait de nous déjà des...
Mais c'est quoi le modèle? Parce qu'on peut le nommer quand même. C'est quoi? C'est le capitalisme industriel?
Ah mais bien sûr, c'est le capitalisme. Hein? C'est le modèle capitaliste. Le modèle capitaliste et tout ce qui va avec le capitalisme. Par exemple, vous retrouvez, parce qu'on parle beaucoup du rapport du GIEC, j'ai eu une étudiante, Anna Diaz-Vidal, qui a regardé, quels sont les concepts qui reviennent le plus dans le rapport du GIEC, le groupe 3. Et ben, elle trouve que le concept de marché, les concepts néolibéraux reviennent le plus dans le rapport. Après, dans le résumé pour décideurs, un petit peu moins. C'est là qu'on voit les gouvernements qui essaient quand même de reprendre un petit peu le pouvoir. Et j'aime bien son rapport, son mémoire, parce que le titre de son mémoire, c'est « Summarizing is power ». Résumé, c'est un pouvoir. Et ça revient à la question en politics. Et aujourd'hui, comme ça, c'est la pensée dominante, ces gens-là, du matin au soir, dans toutes les sphères, nous saoulent avec les idées capitalistes, le capitalisme qui est le problème qui va résoudre le problème, qui va résoudre la crise. Et dès que nous, on dit que le problème, c'est le capitalisme, eh ben vous êtes idéologue, vous êtes ceci, cela. Mais en fait, c'est juste que ce qu'on dit, c'est pas mainstream. Et en fait, ces gens-là, à l'époque du post-keynésianisme, les années 20 avant la crise, ben, ils étaient, pour une partie d'entre eux, traités pareil par les autres. Donc en fait, encore une fois, on se retrouve dans une dominance de groupe.
Est-ce que votre ambition, c'est de rendre la sobriété mainstream, Yabina Saeb?
Ah mais bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai lancé avec des collègues le Laboratoire mondial des sobriétés. Parce que une chose est sûre, lorsqu'on regarde je vais me limiter la crise écologique à la question climat, parce que c'est cette partie-là sur laquelle je travaille, mais elle est beaucoup plus vaste, la crise écologique. Avec les politiques actuelles, on s'assumine minimum autour de 3 degrés de réchauffement planétaire. 3 degrés de réchauffement planétaire, c'est l'équivalent de 4 degrés pour la France. Ce qu'on ne dit pas, parce que les personnes ne parlent de ça, c'est que pour passer du 1,5 d'aujourd'hui à 3 degrés mondial, bah, entre-temps, on aura tué tous les écosystèmes qui nous permettent de vivre sur Terre. Donc, en fait, c'est l'habitabilité de la planète. Pour nous, c'est une question, est-ce qu'on va être des ancêtres ou pas? C'est ça la vraie question, en fait, la question écologique. Et si on essayait de se mettre dans l'accord de Paris, moi, je pense que ce n'est pas ambitieux et que ça ne fera pas grand-chose parce qu'il n'y a pas d'obligation de réduction des émissions dans cet accord-là.
Ce n'est pas suffisamment contraignant.
Ce n'est pas du tout contraignant. Ce n'est pas du tout contraignant. Parce que la contrainte, c'est l'obligation de réduire les émissions et d'avoir des trucs légaux si jamais vous ne réduisez pas les émissions. Ben, si on se mettait dans cette logique-là, pour être autour du... On ne va plus être autour du 1,5, mais autour de 2 degrés, ben ça ne peut pas se faire sans sobriété. Donc, il faut arrêter de se mentir, de me dire que les instruments de marché vont pouvoir faire ça, parce que ça fait 30 ans qu'on nous raconte cette salade, et bien ça fait 30 ans que les températures ne font qu'augmenter.
Est-ce que vous pointez du doigt les limites également du GIEC lui-même dans ce que vous nous dites?
Alors, moi, je pense que le GIEC...
Est-ce qu'il doit se réformer, tout simplement?
De par lui-même, ça m'étonnerait. Moi, je ne crois pas à la réforme interne des institutions.
Pourquoi?
Moi, je pense que le GIEC souffre des limites de comment la science est organisée. Parce qu'aujourd'hui, si vous travaillez plutôt sur les instruments de marché, il vous est beaucoup plus facile d'être financé, et donc de publier, et donc d'alimenter des rapports comme les rapports du GIEC.
Pourquoi vous n'êtes plus au GIEC aujourd'hui, Yabina Saeb?
Ah bah parce que c'est une histoire assez intéressante mais assez triste. D'abord parce que le point focal GIEC français aurait décidé, c'est ce que j'ai lu dans l'email que j'ai reçu, de ne plus informer, de ne plus partager aucune information avec les chercheurs français ou ceux basés en France qui ne sont pas de nationalité française a priori, ce qui n'est pas mon cas. Ils m'ont écrit qu'ils ont filtré la liste qu'ils avaient par nationalité. Ce à quoi j'ai répondu, parce que peut-être que j'apparais avec la nationalité algérienne dans leur liste, ce à quoi j'ai répondu, je vous serais reconnaissante d'intégrer une colonne pour les binationaux. Ce à quoi je n'ai jamais reçu de réponse. Donc moi, je considère que ce qui s'est passé là, ça serait bien qu'il y ait une enquête, que ceux qui ont le pouvoir de faire des enquêtes qu'ils en fassent, je considère que ça, c'est du racisme institutionnel en bande organisée. Pourquoi? Bien sûr, j'utilise ce terme-là.
Vous y allez fort,
Eh bien, j'y vais fort parce que je suis victime de ça et je ne suis pas la seule victime. Pourquoi ? Parce que, en fait, le point focal GIEC en France, il a trois ministères de tutelle, les affaires étrangères ou européennes, la transition et la recherche. Donc, on a trois ministères, je ne sais pas s'ils le savaient ou pas avant cette émission, mais en tout cas, maintenant, s'ils le savent, ils devraient ouvrir des enquêtes. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils en sont arrivés là et qui aurait soufflé cette idée-là de filtrer par nationalité. Et puis, c'est, pour moi, c'est, vous savez, ça me fait penser, je relis souvent Stefan Zweig, parce que j'adore cette époque-là qu'il décrit, qui est avant la fascisation de l'Europe. Et j'ai l'impression qu'on est dans cette époque-là, d'avant la fascisation de l'Europe, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a un pouvoir trumpiste qui encourage d'aller dans ce sens-là.
Il a quitté l'Europe, lui, hein, Stefan Zweig, justement.
Je sais, ça s'est mal fini pour lui.
Il s'est suicidé au Brésil.
Ouais. Ouais. Mais par contre, ses écrits restent magnifiques.
Vous parliez de la neutralité scientifique tout à l'heure. Vous disiez, alors moi, c'est pas mon genre, la neutralité scientifique, certainement pas. C'est quelque chose que beaucoup de scientifiques n'assument pas, de sortir de cette neutralité, justement.
Ben moi, je pense qu'ils se cachent derrière. Ils n'ont pas le courage. C'est tout. Si la science avait été neutre, vous imaginez, on a eu des zoos humains, un zoo humain au jardin d'acclimatation. Au nom de la science, c'était la biologie. Si la science avait été neutre, moi, dès que le rapport du GIEC, dès qu'on avait fini, ben, on n'aurait pas eu des scénarios dits du GIEC. C'est pas le GIEC qui les fait, mais c'est des scénarios colonialistes. Vous savez ce qu'il y a dans les fameux scénarios qui nous amènent vers le 1.5 ? C'est des scénarios qui font l'extension des inégalités dont on a hérité, des inégalités coloniales. Et, par exemple, aujourd'hui, un Africain consomme moins d'énergie que nous, pour plein de raisons. Ok, aujourd'hui, c'est notre héritage, c'est un état des lieux. Donc ça, c'est un fait, on ne fait rien dedans, nous. Mais après, ce qui me gêne, moi, c'est quand on fait l'extension de cette inégalité jusqu'à la fin du siècle. Ben, ça, c'est pas neutre du tout. Derrière, il y a des mécanismes. Et on ne peut pas être neutre. Pourquoi ? Parce que la science... En fait, les gens confondent la neutralité et l'objectivité. La science, c'est objectif, c'est basé sur des méthodes, et normalement, c'est réplicable. Ce n'est pas toujours le cas, mais on va dire c'est réplicable.
Ça, c'est la méthode scientifique.
Donc, il y a la méthode. Ça, ce n'est pas à contester. Ensuite, la neutralité, la science serait neutre quand ça ne sera plus des êtres humains qui vont faire de la science, mais même si c'était l'intelligence artificielle, au départ, c'est nous qui alimentons l'intelligence artificielle. Donc, ça ne peut pas être neutre. C'est des gens qui fuient leurs responsabilités.
Politics is cool.
Ouais.
Yamina Saïm, notre invité au carré.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
On pense pour l'énergie, par exemple, on peut économiser en 2-3 ans 25% du chauffage, c'est tout de même économiser près de 10% de l'énergie française actuelle. Bon, et ça, on peut le faire sans méthode coercitive du tout. Bon, eh bien, il faut qu'on le fasse pour l'ensemble. Il faut donc qu'on ait une politique basée sur l'économie d'énergie. Je crois que pour l'instant, de toute façon, l'accélération du temps est telle, et l'accélération des problèmes est telle actuellement, qu'on sera amené à changer relativement rapidement le système économique. En tout cas, entre le monde que nous avons actuellement et celui que nous aurons d'ici 20 ou 25 ans, il y aura des différences absolument considérables.
Là, nous sommes le 16 juin 1974, au cours d'une émission La France défigurée. Les téléspectateurs français découvrent une nouvelle thématique qui sera appelée à prendre de plus en plus de place au fil des ans, celle justement de l'économie d'énergie. On entendait Claude Guimin du Bureau de recherche géologique et minière. Et c'est vrai qu'on est, Yamina Saïm, 9 mois après la survenue du premier choc pétrolier en 1973. Et les Français, et d'ailleurs plus généralement les Occidentaux, découvrent les limites aussi d'une économie, on en parlait tout à l'heure, gourmande en énergie, principalement fournie par le pétrole. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses entre ces années 70 et aujourd'hui, où finalement on n'a tellement rien compris qu'il ne s'est pas passé grand-chose au fond.
Alors je crois qu'on n'a tellement pas compris qu'il ne s'est pas passé grand-chose, parce que ce qui s'est passé dans les années 70, c'est qu'on on parlait des économies d'énergie, d'ailleurs on retrouve dans les textes fondateurs de l'Agence nationale de l'énergie, on parlait de la conservation de l'énergie pendant 20 ans, et puis quand ils ont fêté leur 20 ans, nos pays, leurs 20 ans ensemble, dans le Our Shared Goals, il y a un document où le mot conservation de l'énergie a disparu au profit du mot efficacité énergétique. Et donc on a essayé d'économiser un peu. Et puis après, ce qu'on a fait surtout, c'est ce qu'on appelle la diversification des fournisseurs d'énergie. C'est comme ça qu'on est allé vers la Russie. Donc on s'est rendu compte, parce qu'avant on était très dépendant de nos anciennes colonies où on avait imposé les prix, parce qu'il faut savoir ce que c'est que la crise pétrolière. Donc c'est une crise en vérité, c'était la suite de la mauvaise décolonisation, si vous voulez, parce qu'en partant, on a imposé les prix, on a imposé nos sociétés. Et donc ces pays-là, au bout d'un certain temps, ils commençaient à avoir de la compétence technique, ils ont nationalisé pour la plupart. Et puis ils ont dit, bah, c'est nous qui fixons le prix parce que c'est nous qui avons la ressource. Enfin, c'est celui qui vend qui fixe le prix, pas celui qui achète. Mm-hmm. C'est ça la crise. Et tout ça, en fait, après, donc il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Par exemple, c'est à ce moment-là qu'on a eu les premières maisons solaires, etc. Et puis après, tout ça a disparu parce que grâce à la diversification et le prix du pétrole a baissé. Et puis après, on est revenu, on est parti, mais on est parti à une vitesse incroyable dans la surconsommation, la demande sans limite, parce qu'on avait de l'énergie pas chère, nous, qui venait des autres pays. Et donc, ensuite, à ça est venue se rajouter la crise économique, la question climatique, pardon. Elle est venue plutôt, le premier rapport du GIEC remonte en 90, et en vérité, la Convention des Nations Unies sur le climat remonte à 92. À ce moment-là, commencent les travaux sur la question climat. D'abord, il y a eu tous ceux qui, les climato-sceptiques, disaient que c'était pas vrai et tout. Et donc, le temps que ça arrive dans les politiques énergétiques, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais au moment où ça arrive, au moment où la question climat rencontre la question énergie, c'était le moment où nous, du côté de l'énergie, en fait, ils avaient oublié la conservation, ils sont partis à l'efficacité. L'efficacité, c'est quoi? C'est l'amélioration continue des technologies. Sauf que quand on fait ça, il y a une limite physique à ça. Ça, c'est basé sur le premier principe de la thermodynamique. Je vais le faire vite. Ça veut dire, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. C'est ça l'économie circulaire et tous ces concepts-là. Mais en fait, si vous faites ça, il y a toujours de la chaleur qui se dissipe. Donc, il y a toujours des pertes qui ne sont pas prises en compte. Si vous ne prenez pas en compte le deuxième principe et l'entropie, eh ben, vous allez arriver droit dans le mur. Et c'est là où on arrive, là, contre le mur, en raison de la nature et la nature. On ne peut pas la discipliner.
Mais du point de vue énergétique, c'est quel mur, en fait, exactement? C'est quoi, finalement, le problème, réellement, aujourd'hui?
Du point de vue énergétique, ouais. Du point de vue énergétique, on a une consommation énergétique qui est très très élevée par rapport à ce qu'on devrait utiliser si on était sérieux, point de vue climat et crise écologique.
Mais est-ce que ça va devenir de plus en plus élevé ou est-ce qu'il y a un moment où, de toute façon, le système énergétique de lui-même va se casser la figure? Parce que d'une part, ça coûtera beaucoup trop cher.
Alors, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Par exemple, la question énergétique aujourd'hui, dans nos pays, on a des gens qui souffrent de précarité énergétique. Donc, il y a des gens, les opérateurs énergétiques, ceux qui vendent de l'énergie, ils leur limitent leur consommation d'énergie parce que, non pas pour des raisons climatiques, mais parce qu'ils ne peuvent pas payer des factures énergétiques élevées. Donc, il y a déjà de la précarité énergétique. Ce qui va sûrement se produire, ce qui est en train de se produire déjà dans nos pays, c'est l'augmentation de la part de la population qui fait face à des questions
à des difficultés financières.
Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait régler relativement facilement en Europe. Vous savez que le prix de l'unité d'énergie est beaucoup plus élevé pour ceux qui consomment le moins que pour les premières unités que vous consommez que pour les unités que vous consommez à la fin. Donc ça n'a aucun sens d'un point de vue social, d'un point de vue cohésion sociale et non plus d'un point de vue environnemental. En fait, aujourd'hui, la structure des prix vous encourage à consommer plus. Mais ce consommer plus est possible pour ceux qui ont les moyens de consommer plus.
Si on regarde l'énergie avec les lunettes justement de la sobriété, le scénario c'est quoi le meilleur des scénarios finalement pour l'avenir? Ce serait quoi alors?
Alors, si je regarde par exemple la question de la mobilité, par exemple. Dans la question de la mobilité, les politiques qu'on a mis en place pour des raisons climatiques ou de réduction de notre dépendance énergétique, parce qu'on est très dépendants, les Européens, ce sont des politiques d'efficacité. On a d'abord amélioré l'efficacité de la voiture, et puis après, maintenant, on passe à l'électrification de la voiture. Or, si on devait remplacer la flotte que l'on a actuelle de voitures par une flotte électrique, eh ben, notre réseau électrique ne pourrait pas fournir suffisamment d'électricité pour toute cette flotte-là, vu la consommation qu'on a. Par contre, ce qu'on devrait faire, parce qu'on part du symptôme, encore une fois, la question de la mobilité, aujourd'hui, je ne sais pas comment vous êtes venu, vous ici, moi j'ai pris le bus. Voilà, j'ai pas pris le vélo parce qu'il pleuvait, mais j'ai pris le bus, par exemple. Donc en prenant le bus, bien sûr que j'ai pollué, j'ai consommé de l'énergie, mais en fait ma contribution est certainement moindre que si j'étais venu en voiture. Je n'ai pas de voiture, donc j'aurais pas pu le faire. Et donc en fait, c'est la question de rapprocher les services essentiels de là où, des lieux de vie. C'est ça qui conduit. C'est ça, c'est la façon dont on s'est organisé, c'est l'urbanisme en vérité qui a conduit à cette demande énergétique très forte dans le cas des transports.
Dans votre laboratoire mondial des sobriétés, donc vous êtes la directrice Yalina Sayem, qu'est-ce qu'on fait exactement? On pense au monde de demain, on fabrique des scénarios, on fait des rapports qui ne seront pas lus?
Alors on va faire des scénarios, là justement on a un doctorant, Valentin Stulfoot, qui va faire des scénarios mobilité et logement pour la France spécifiquement, avec l'impact macroéconomique. La première premières choses que l'on a fait au laboratoire, c'était, quand j'avais travaillé sur la sobriété pour le rapport du GIEC, l'un des grands défis qu'on avait eu, c'est que dans la littérature scientifique, le mot sobriété n'apparaît pas nécessairement. Donc les gens, ils parlent de ça, mais il n'y a pas forcément le mot. Il y a très peu de littérature où ça apparaît. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, la sobriété était un peu partout, mais dissipée, donc nulle part, un peu partout et nulle part. Première chose qu'on a fait, c'est de ramener toute cette littérature-là à la surface. On lance bientôt un outil, le Chat Sufficiency, qui nous permet de ramener toute cette littérature. Il faut vous rendre compte de l'ampleur.
Donc vous avez compilé tout ce qui existe.
En fait, on le ramène et on laisse les gens après étudier la chose. Donc on est parti de 250 millions de publications. On est tombé en mettant notre requête sur la sobriété à 550 000 publications. Donc c'est pas très stable.
Citant la sobriété, c'est ça?
Parlons de sobriété, pas nécessairement citant le mot sobriété. Okay. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, nous, quand on avait réfléchi à ça, en fait, parce que les gens posaient la question, c'est quoi la sobriété? Donc là, maintenant, ils vont pouvoir poser la question à cet outil qui va leur répondre et qui va leur ramener de la littérature scientifique là-dessus. Puis après, on s'était dit, y a des gens qui voudront aller un petit peu plus loin, donc ils voudront se former à la sobriété. Donc là, on va lancer au printemps un MOOC sur la sobriété, les principes théoriques de la sobriété et puis la sobriété dans la vie. Parce que la sobriété, elle est déjà dans beaucoup d'exemples. Ouais. Puis après, la troisième chose que l'on fait, c'est justement si les gens ont envie de se mobiliser, de travailler sur le changement de notre monde, on a créé le consortium mondial de la sobriété, et là-dedans on crée des laboratoires nationaux, parce que la sobriété il faut la contextualiser, et premier laboratoire national qu'on lance, c'est le laboratoire suisse dans deux semaines, le 25.
Justement, j'allais vous poser la question, Yamina Saeb, lorsque, comme vous, on est en train de prôner la sobriété du matin au soir, dans sa vie personnelle, alors vous êtes, j'imagine, un exemple extraordinaire de sobriété. Donc, comment ça se traduit?
Alors, la sobriété, c'est pas individuel, c'est du collectif. Moi, quand j'étais étudiante à Paris, il y avait pas de piste cyclable sécurisée. Ça aurait été du suicide de prendre le vélo pour aller de chez moi à l'EHESS. Aujourd'hui, je prends le vélo, sauf quand il pleut. Je voulais pas arriver toute trempée au studio, mais je prends le vélo tout le temps. Pourquoi est-ce que je prends le vélo? Parce qu'il y a des pistes de vélo, des pistes cyclables. Alors, c'est pas parfait, c'est pas Copenhague ou Amsterdam, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a 25 ans. Ouais, ça,
et
c'est pas.
Et puis vous habitez en ville, parce que les gens qui nous écoutent sont à la campagne.
Mais en fait, je peux faire ça parce que la solution est déjà là. Donc, ce n'est pas moi, individu, qui fait ça toute seule. Donc, c'est du collectif. Encore une fois, on revient au collectif, et la sobriété, c'est une question de démocratie. Dans quelle société voulons-nous vivre? Et sur quelle planète voulons-nous vivre?
Mais qu'est-ce qu'on fait de mieux quand on est un citoyen, et vous, personnellement, pour justement appliquer la sobriété?
Alors, quand vous êtes un citoyen, aujourd'hui, ne peut pas vivre sobrement dans le monde tel qu'il est organisé. Ça, c'est exclu, en fait.
Alors, on fait comment?
Voilà. On s'organise avec les autres. C'est pour ça qu'on lance le consortium et le laboratoire des sobriétés pour justement faire des politiques de sobriété. Donc, il faut passer par le politique. Mais au niveau individuel, il y a des petites choses que l'on fait qu'on peut considérer qu'en faisant partie de la sobriété. Moi, je n'ai pas grandi dans la société de consommation par rapport à ma génération en France. Moi, je n'ai pas eu... les supermarchés, d'ailleurs, ça me stresse, les grandes surfaces, là, moi, ça me stresse, j'y vais jamais.
Vous achetez
j'achète mes fruits et légumes chez le vendeur, chez le maraîcher à côté de chez nous, et ça me fait plaisir d'aller au marché, parce que c'est la vie de société, je ne suis pas une machine qui reste chez elle et qui va taper et qui va chercher.
C'est pas plus cher que le supermarché?
Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée parce que j'habite à Paris, je n'ai pas de supermarché à côté de chez moi, et donc j'ai grandi, moi j'ai toujours eu le marché et j'ai toujours aimé, moi c'est des souvenirs d'enfance d'aller au marché, et donc j'aime transmettre ce souvenir là.
Mais c'est pas avec le vélo ou en achetant chez les légumes, chez le maraîcher, qu'on va changer le monde.
Non.
Donc c'est quoi le mot d'ordre?
C'est politique. Le mot d'ordre, j'ai porté ce pull là exprès. It's politics.
Voilà, c'est ce qu'il faut retenir.
Voilà, c'est ça qu'il faut retenir.
Donc ça veut dire voter pour les bonnes personnes.
Voilà, mais avant de voter, il faut, parce que les bonnes personnes, elles sortent pas de nulle part. Il faut faire la pression pour que les bonnes personnes existent, pour que les bonnes personnes sortent. Et ensuite, il faut aller voter pour les bonnes personnes et continuer à travailler, parce que c'est pas juste le vote. La démocratie, c'est pas juste le vote, c'est pas juste mettre un bulletin de vote. C'est tous les jours qu'il faut qu'on se réapproprie notre citoyenneté. Et ça passe par...
Politics is cool. Ouais. Merci beaucoup Yamina Saeb, vous étiez notre invitée au carré aujourd'hui. Merci à Anna Massardier qui a préparé ce dossier avec vous, Julien Thévenot à la technique, Jérôme Boulet qui réalisait cette émission.